Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bossouban.
City n'est étouffée par la police ce lundi à Kinshasa. Cette activité du CALCC est mise à pro ainsi que le FCC et la MUCA devant la CENI vise notamment à exiger l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante. Le centre de Drodroan Nitouri, récupéré par l'armée ce lundi après son occupation hier après-midi par la milice URDPC Codeco. L'armée parle de 12 morts, bilan provisoire. Un mouvement important de la population est observé dans la zone. Et puis, l'invité de ce midi, Thierry Zing, chargé de plaidoyer au programme Observation citoyenne du Centre Carter. Il part de la formation sur la logistique des réformes électorales en RDC, activité organisée la semaine dernière à Mbujimayi. Madame, Messieurs, bonjour. La police nationale congolaise a empêché ce lundi le sit-in prévu par le Conseil de l'Apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, et le ministère des laïcs protestants, MILAPRO, ainsi que le FCC et la MUCA devant la CENI. L'objectif de cette manifestation était d'exiger l'indépendance de cette institution d'appui à la démocratie. Les voix menant au siège de la commission électorale dans la commune de la Gombe sont quadrillées depuis tôt ce matin par les forces de l'ordre. Les agents de sécurité filtrent les entrées dans les périmètre du siège de la CENI, des véhicules empruntant cette voie sont aussi contrôlés et ce contrôle provoque des embouteillages sur ces artères. On écoute Jeff Pambi, secrétaire national de MILAPRO, joint par Alain Rongmouching.
Bon, la situation est telle que le peuple congolais a répondu présent, sauf qu'il y a eu des cas malheureux où d'abord on commençait par le blocus autour du site prévu, ainsi que toute la ville pratiquement de Kinshasa a été, le centre-ville en tout cas, a été quadrillé.
Donc en ce moment, vous n'avez pas pu accéder au site de la CENI. Est-ce que toutes les autres forces politiques et sociales, FCC, la MUCA, CALCC, est-ce que vous êtes ensemble en ce moment?
Nous sommes ensemble. Présentement que nous parlons, nous sommes dans le parage, en tout cas dans le périmètre.
En ce moment, est-ce qu'il y a eu par exemple des arrestations, des affrontements avec la police ou tout est vraiment calme, il n'y a rien à signaler?
Des affrontements en tant que tels, non, mais il y a eu des bousculades de la police qui repoussaient des attroupements de la population qui s'élevaient pour tendre vers le site voulu. Mais quant aux arrestations, il y en a en nombre. Je vois là-bas à peu près 8 qu'on me reporte du côté de la BCDC, y compris des femmes. Et on m'a reporté aussi d'autres venant du côté de Tchangou.
Toujours à Kinshasa, la circulation a été perturbée cet avant-midi dans plusieurs coins de la ville à la suite de la grève décrétée ce lundi par les transporteurs des taxis à la Tchangou dans la partie est de la capitale par exemple. Les habitants de ce coin de Kinshasa, désireux de rejoindre le centre-ville, lieu de leur travail, ont fait les pieds. Le prix d'une course à moto a été doublé. D'autres chauffeurs cependant que nos reporters ont abordé affirment ne pas avoir été informés de la suspension de leur grève qui était prévue ce lundi 22 novembre. Les taxis Simène ont pris la résolution d'arrêter le travail pour dénoncer les multiples tracasseries des policiers et des agents du service de transport. Toujours dans la capitale, certaines écoles ont repris les cours ce lundi à la suite des appels des syndicats des enseignants. Cet appel intervient après les négociations de Mbuela Lodge à Kisanto au Congo central, au complexe scolaire Cardinal Mosengwa Limité. La reprise des cours ce lundi est effective. Nous y avons remarqué une présence massive des élèves à l'Institut Bakanza situé sur l'avenue du Stade dans la commune de Kinshasa et à l'épée lycée Ntinouéné, une école conventionnée catholique à la 13e rue Limité. Il y a eu reprise des cours également. Cependant, nos reporters signalent qu'au lycée Bolingani, une école conventionnée catholique dans la commune de Kintambo, les enseignants du primaire ont refusé de reprendre le cours. Rendons-nous au Congo central. Un vent d'évasion des prisonniers continue à souffler sur la ville de Matadi. Après la prison centrale de cette ville où se sont échappés 204 détenus le samedi, hier dimanche, 6 autres détenus du cachot du parquet près le tribunal de grande instance de Matadi ont aussi pris le large. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Matadi qui livre l'information indique que cette évasion n'a pas de lien avec l'intrusion d'hommes armés qui a occasionné la fuite des prisonniers dans la prison centrale de Matadi. Pied-pied Kuna estime que cette fuite est plutôt due à l'imprudence des policiers commis à la garde de ce cachot. Le policier en question, craignant des poursuites, a aussi pris fuite. Autre nouvelle, un réseau des parachutistes vient d'être largué sur le terrain par le RENADEF, Réseau national des ONG pour le développement des femmes, à l'issue d'une formation de 5 jours clôturée hier à Kinshasa. Ce réseau, dans lequel on retrouve des homosexuels et professionnels du sexe, vise à sensibiliser au respect des droits humains contre la stigmatisation de cette catégorie des personnes dans la société et accompagner les victimes de violences sexuelles dans le rétablissement de leurs droits. D'autres détails dans ce reportage de Jeff Ngoy.
Doter les personnes de toute catégorie des notions de base pour défendre les victimes des violations des droits humains, surtout celles des violences sexuelles et basées sur le genre, c'est un des objectifs de cette formation qu'explique ici la coordinatrice du RENADEF, Marie-Zaïna Nyombo.
Cette action, c'est en lien avec la lutte contre le VIH-Sida et la tuberculose. Nous avons compris qu'il y a encore des personnes laissées pour compte, des personnes qui n'accèdent pas aux services de santé de qualité, ceux-là qui sont discriminés par rapport à leur statut sérologique dû au VIH, ou soit ceux qui sont tombés malades de la tuberculose, qui sont discriminés, rejetés par la famille et même par la société. Donc nous avons compris que pour arriver à mettre fin à ce fléau des violences sexuelles et basées sur le genre, nous devrions avoir un réseau de parajuristes qui ne sont pas des juristes, mais les acteurs communautaires.
Motif de satisfaction pour cette participante qui détaille ce qu'elle a appris.
On a appris comment doit se comporter un parajuriste et qu'est-ce qu'il doit éviter, qu'est-ce que le VIH.
Daniela, accompagnée de sa copine, c'est un homosexuel appelé à défendre les droits des gays.
On va sensibiliser et puis on va lutter contre la discrimination.
Vous avez corrigé avec moi, c'était plutôt un réseau des parajuristes. Direction l'Ituri. Les FARDC ont récupéré ce lundi le centre de Drodro, situé à environ 60 km au nord de Bounia, territoire de Djougou. Cette entité a été occupée hier après-midi par les éléments du groupe armé Union des Révolutionnaires pour la Défense du Peuple Congolais, URDPC, CODECO. C'est après une attaque contre la position des FARDC. L'armée avance un bilan provisoire de 12 civils tués, en majorité des déplacés. Un mouvement important de la population est observé dans la région. Le point avec Martial Kiza.
C'est très tôt ce lundi matin que les FARDC ont repris les contrôles du centre de Drodro après les retraits des miliciens du groupe armé URDPC Barkodeko qui ont investi cette entité pendant quelques heures. Selon plusieurs sources concordantes, les dégâts sont énormes sur place. Les abris d'une position avancée des FARDC essaient de déplacer incendiés. L'armée signale également les meurtres de 12 civils dont les corps ont été découverts au centre de Drodro. Le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des FARDC à Ituri.
Drodro et tous ses environs sont passés sous contrôle de forces armées après avoir protégé les déplacés par les forces armées en donnant un couloir jusqu'à d'aller se réfugier au camp de la MONUSCO. Il y a 12 corps que nous avons vus ce matin.
D'autres sources parlent de 15 corps des civils déjà enregistrés. Elles ajoutent que ce bilan pourrait s'alourdir car la fouille continue. La société civile locale indique que plusieurs familles se sont déplacées vers Largo et Ro, toujours en chefferie des Baïma Nord. La MONUSCO pour protéger les civils a installé provisoirement une base à côté du site de déplacés des Drodro. Notons qu'environ 7 villages ont été attaqués par les assaillants de la CODECO au cours de la seule journée de dimanche. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Du côté du Nord Kivu, au moins 5 villages du groupement Rugari dans le territoire de Rutshuru se sont vidés de leurs habitants la nuit dernière. Situation consécutive à l'attaque des deux positions des FARDC, attaque attribuée aux présumés rebelles du M23. Dans la même nuit, l'armée affirme qu'une opération est en cours dans la zone pour établir la sécurité, le récit de Bernardin Nyangui.
Selon des sources civiles et militaires, ce sont les positions de Ngungu et Nyasisi, situées vers la frontière entre la RDC et le Rwanda, dans l'est du groupe Marugari, qui ont été la cible des attaques successives des présumés rebelles du M23 entre 21h et 3h du matin dans cette partie du territoire de Rutshuru. Ces deux positions, avec un faible effectif de militaires commis à la sécurité des frontières, ont été incendiées par les assaillants, qui seraient ensuite partis vers une destination inconnue. Le porte-parole des opérations Sokola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, ne donne aucun bilan de cette attaque. Pour l'instant, il précise cependant que l'armée a déjà déployé une opération dans la zone pour rétablir la sécurité. Les sources coutumières locales indiquent en revanche que les villages Ngungo 1 et 2, Rwanga ainsi que Butaka 1 et 2, qui sont riverains aux deux positions FARDC, se sont vidés de leurs habitants qui ont fui vers Rugari Centre et vers la paroisse de Rugari entre autres. Rappelons que c'est la troisième attaque attribuée au présumé M23 dans la zone les deux dernières semaines. C'est après celle de Runyoni et d'une position de l'Islam. ICCN à Bukima, respectivement le 8 novembre et 20 novembre en groupement Kisigari. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Kapi.
Et au sud Kivu voisin, une attaque des bandits armés a fait 4 morts hier à Kamituga dans le territoire de Mwenga. Les assaillants ont réussi à emporter d'importantes sommes d'argent et des colis des minerais en pleine journée. Les FARDC ont réussi à les pourchasser et neutraliser deux d'entre eux. Emmanuel Elameji Wakabedi nous raconte.
Plusieurs sources concordantes de Mwenga affirment que l'attaque a eu lieu aux environs des 11 heures au centre de Kamituga. Des bandits armés et en tenue civile se présentent simultanément devant deux maisons d'achat de minerais de l'or. Ils réussissent à dévaliser les négociants et emportent plus de 15 000 dollars américains et une importante quantité d'or. Sur le chemin de leur fuite, ils rencontrent une riposte des FARDC et s'ensuit les échanges de tirs. Dans la foulée, deux bandits sont tués tandis que les FARDC perdent également deux éléments. Des sources de l'armée confirment l'information et indiquent que ce sont les assaillants en fuite qui détiennent le butin volé. La population de Kamituga, en colère, a tenté de brûler les corps des assaillants, mais les FARDC sont intervenus. Le calme est vite revenu, mais la population dit vivre dans la psychose. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Rendons-nous au Kasaï oriental. Plus de 20 structures des femmes rurales de Mbujimayi ont bénéficié hier des intrants agricoles ainsi que des semences. D'autres ont reçu des fonds de démarrage de leurs activités commerciales. C'était au cours de la cérémonie de clôture des activités de la quinzaine du mois de la femme rurale, présidée par la ministre du Genre, Famille et Enfants du gouvernement central. Gisèle Ndaya est en mission officielle à Mbujimayi. Esther Ndalafina, reportage.
À la cérémonie de clôture de la quinzaine du mois de la femme rurale, plusieurs produits des champs ont été exposés pour démontrer les efforts des femmes qui exploitent la terre. La coordonnatrice provinciale du RENAFER ainsi que le ministre provincial du Genre, Famille et Enfants ont mené des plaidoyers pour l'octroi des tracteurs pour la femme rurale, des semences améliorées, des kits de transformation des produits champêtres ainsi que l'appui à l'élevage de proximité. 10 structures des femmes rurales ont reçu quelques intrants agricoles. Satisfaction de Chantal Moulanga de la structure Femmes et Familles de l'Église du Christ au Congo SSC.
Nous avons reçu la semence, les intrants agricoles, en vue d'améliorer nos techniques culturelles sur le terrain. Je suis vraiment navrée de joie.
Fallon Mujinga a reçu un fonds de démarrage pour les activités économiques après avoir suivi un atelier sur l'entrepreneuriat féminin.
J'ai la joie pour ce geste qui va réduire la pauvreté au Kasaï oriental.
Le ministre national du genre, famille et enfants, Gisèle Ndaya Luseba, souhaite que cet appui rende les femmes de plus en plus autonomes.
Que les outils que nous pourrons mettre à la disposition de vos structures permettent à chacun de trouver le levier pour se rendre économiquement autonome.
Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Kapi.
Actualité internationale. Nous sommes en Libye, à la veille de la clôture du dépôt des candidatures à la présidentielle libyenne. Le premier ministre par intérim s'est à son tour déclaré candidat. Abdelmaïd Debda aura donc attendu le dernier moment, une semaine après ses principaux concurrents, après Saïf al-Islam Kadhafi ou l'ex-maréchal Khalifa Haftar. C'est une candidature controversée des plus, à un mois d'une élection plus incertaine. Selon la loi électorale en vigueur en Libye, une candidature ne peut être acceptée que si le candidat a quitté les fonctions officielles qu'il occupait 3 mois avant le scrutin. Premier ministre par intérim en exercice, Abdelhamid n'aurait pas pu, selon ce texte, se porter candidat. Aux États-Unis, une voiture a foncé dans la foule à Waukesha, une ville du Wisconsin. Il y a 5 morts, disent les autorités. Au moins une quarantaine de personnes ont été blessées. Un suspect est en détention. La ville organisait une parade pour célébrer la mise en place du sapin de Noël quand une voiture rouge a foncé sur des barrières blanches, puis sur la foule. Le véhicule a touché des participants, parmi lesquels des enfants. L'incident a provoqué un mouvement de panique. Un policier a ouvert le feu sur le véhicule pour tenter de l'arrêter. Mais en vain.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Thierry Zeng, chargé de plaidoyer au programme Observation citoyenne du Centre Carter. Il s'exprime sur la formation sur la logistique des réformes électorales en République démocratique du Congo, activité organisée à Mbujimayi la semaine dernière. Au cours de ces assises, les députés provinciaux ainsi que quelques acteurs de la société civile ont appris à rédiger les textes des lois sur les réformes électorales. Thierry Zeng s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, Monsieur Thierry Zeng. Vous avez organisé des journées de restitution pour les réformes électorales en RDC. Pourquoi c'est à l'intention des députés provinciaux?
Permettez que je revienne un peu dans l'histoire, ce projet. En fait, c'est un projet qui a été financé par le gouvernement allemand. Et comme nous sommes un programme d'observation citoyenne, le gouvernement allemand a financé toutes ces questions de plaidoyer. Et surtout des plaidoyers pour des réformes clés, des réformes électorales. Parce que nous sommes un programme qui travaille dans le domaine des élections. On s'est rendu compte qu'il y a une difficulté réelle dans la rédaction des lois. Et souvent les experts apparaissent quand il faut interpréter cette loi qui a été mal écrite ou avec des erreurs. Et pour ça, nous, on est aller en amont, se dit non, on attaque déjà maintenant, qu'on essaie de faire voir à ceux-là qui rédigent, les légistes et les législateurs, qu'on le fasse voir avec quel art il faut rédiger une loi pour aboutir à un résultat. C'est la raison pour laquelle il y a eu des travaux à Kinshasa et au Congo central, où on a eu un expert, le doyen de la faculté de droit, Jean-Louis Essambo, qui nous a formés, qui a formé les députés nationaux, qui a formé les membres de la commission épiscopale justice et paix de la CENCO, qui a formé les membres du centre Carter. Alors, il y a eu ce désir d'étendre ces informations et cette formation au niveau des provinces, parce que les députés provinciaux eux aussi prennent certaines décisions, certains actes, des édits au niveau de la province, dans la gestion de la province. Mais il y a souvent des lacunes, des petits problèmes de forme et de fond quand ils écrivent ces textes-là. La raison pour laquelle on est venu les renforcer en capacité pour qu'ils soient capables réellement de produire un travail de qualité.
En entendant parler de la logistique, qu'est-ce que cela veut dire concrètement?
La logistique, s'il faut la définir, c'est cette science de rédaction de loi. Il ne faut pas attendre seulement l'écriture de ABC de la loi. Non, c'est la forme et le fond de la loi qui est rédigé, qui est compris et qui est vulgarisé. Vous comprendrez que ce n'est pas le fait seulement d'écrire les titres, les chapitres d'une loi que cela doit être considéré comme étant une logistique. Non, il y a un style qu'il faut suivre. Il faut une certaine clarté et ça évite certaines confusions. Je peux donner un petit exemple. Quand, par exemple, un arrêté provincial souligne et dit « vu la Constitution dit quoi par rapport à l'arrêté que vous voulez prendre ?» Il faut énoncer ce que dit la Constitution. Vu la nécessité, il y a nécessité de faire quoi? Vu l'urgence, quelle urgence? Il faut énoncer cette urgence. C'est là qu'on vient apprendre à nos amis ici que chaque fois que vous devez faire référence à une loi ou à un document juridique, énoncez la disposition qui vous donne, vous, l'autorisation de poser l'acte que vous voulez poser.
Ces députés provinciaux siègent depuis bientôt plus de 2 ans.
Exact.
Et pourquoi cette formation intervient maintenant? Parce qu'il fallait venir un peu plus tôt.
Un peu plus tôt exactement, mais le financement est arrivé aussi à ce moment-ci parce que nous n'avions pas nous-mêmes notre propre argent pour le faire. Et il y a aussi eu la situation de Covid qui a tout mis à terre. Et heureusement qu'on a dû relancer les choses. On aurait pu venir un peu plus tôt, mais comprenez que les bailleurs ont leurs caprices, mais aussi la situation de Covid qui nous a bloqués. Mais sinon, on a l'intention de couvrir tout le pays. On a choisi 5 premières provinces et la province du Kasaï oriental a été parmi les 5 pionniers qu'on a choisis. Et de sorte qu'à partir d'eux, on peut voir comment étendre cette formation aux autres provinces.
Pourquoi cette formation se focalise plus sur les réformes électorales?
Parce qu'on est dans une période que nous appelons la période préélectorale. Une période de forte tension. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu autour de la loi organique sur le fonctionnement de la CENI. Et là, il y a la loi électorale qui s'annonce, qu'on devra voter. Il y a plusieurs lois qui concernent le processus électoral. Alors, il ne faut pas attendre la dernière minute pour commencer à en parler. Nous, on anticipe pour que déjà, on sensibilise la population au niveau le plus bas, au niveau local, qui comprennent quels sont les débats qui se mènent au niveau des instances supérieures, par exemple à Kinshasa. Eux aussi, ils ont un mot à dire. Les députés nationaux sont issus de nos territoires ici. Ils peuvent dire un mot à leurs propres députés pour que ces députés essaient d'endosser toutes ces questions et les pose au niveau de l'hémicycle, là où les questions clés de réforme se posent.
Ne pensez-vous pas que ces difficultés que vous avez constatées au niveau de la rédaction des textes sont aussi constatées au niveau d'autres textes qui ne cadrent pas avec les élections?
Et Dieu merci, vous venez de souligner cela, c'est effectivement cela, mais nous, pour le moment, nous commençons par cet aspect électoral. Ça va permettre qu'ils découvrent les techniques, parce qu'on a dit la logistique c'est une science, mais aussi un art.
Monsieur Thierry Zeng, merci.
Thierry Zeng, chargé de plaidoyer au programme Observation citoyenne du Centre Carter, répondait aux questions de Esther Ndalafina. C'est la fin de ce journal coordonné et supervisé par Alain Rung Mouchinj à la mise en onde Polydor Basunga. Belinda Bosuma vous l'a présenté avec plaisir. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site www.radiocapi.net.